Bonjour Monsieur le Maire, avec Pierre Maurer sur DKL.
Et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Bonjour Monsieur le Maire. Et nous avons pris la direction du nord de l'Alsace, direction le Bas-Rhin. Et nous sommes à Saverne en compagnie du maire de Saverne, Stéphane Heinberger. Bonjour.
Bonjour.
Merci de nous recevoir dans votre mairie, dans votre ville. Et je disais ça juste avant de commencer l'interview. Ça fait du bien parce qu'on sent que Noël se prépare ici à Saverne.
Ah oui, c'est quelque chose de très important pour nous, malgré les circonstances. Et on sait tous que Noël cette année sera un petit peu différent des autres années. Mais l'ambiance de Noël, la magie de Noël doit exister dans nos rues, doit exister dans le cœur des Savernois aussi. Et je crois qu'il faut pouvoir avoir ce moment de partage, même s'il ne sera pas aussi prégnant qu'il pourrait l'être d'habitude.
Ça se traduit comment dans cette rue qui passe juste devant la mairie, qui est la rue commerçante de la ville, hein ?
Alors chez nous, c'est une ambiance à travers un éclairage qui est particulièrement soigné, à travers la décoration, le grand sapin qui est là depuis quelques jours déjà, qui est en train d'être habillé. On a depuis quelques années un sentier de lumière à Saverne qui traverse tout l'axe commerçant de la ville. Et ce sentier de lumière, nous le préparons comme d'habitude. Nous avons aussi fait le choix de monter les chalets. Alors, est-ce qu'il y aura ou pas possibilité de les utiliser ? Nous verrons bien, mais au pire, ça fait partie du décor. Et au mieux, nous serons prêts à pouvoir les ouvrir dès que cela serait potentiellement possible. Difficile à dire.
Sinon, vous avez réfléchi, comment dire, à une utilisation plan B. Si jamais il n'y avait pas possibilité de vendre, on pourra les valoriser d'une manière ou d'une autre, ces chalets ?
Alors, en soi, ils sont relativement soignés, ils font décor. J'ai quand même bon espoir que, d'une manière ou d'une autre, des associations ou des professionnels pourront s'y installer, au moins pour vendre, peut-être pas des produits à consommer sur place, mais au moins un certain nombre de produits à emporter, artisanat à autres. J'espère que l'avenir nous donnera raison.
Vous vous laissez jusqu'à quand, à peu près, pour décider ? Il y a le contexte sanitaire contraint, on va dire, mais vous, il y a une part volontariste derrière. Vous vous dites, on attend vraiment jusqu'au dernier moment ?
On attend jusqu'au dernier moment. Et même si le 20 décembre, on avait quelque chose, on serait prêt à pouvoir ouvrir quelque chose le 21. Tout ce qui est bon à prendre sera pris.
On va peut-être redire quelques mots de l'endroit où nous sommes. On a dit mairie de Saverne, mais Saverne, c'est une ville emblématique du nord de l'Alsace. En quelques mots, s'il fallait la définir, la situer, que pourrait-on en dire ?
Je crois que Saverne est à une position très, très stratégique sur notre département. C'est une petite ville moyenne, mais qui finalement influence un bassin de vie très important de 150-200 000 habitants. Donc c'est véritablement la ville-centre d'un vaste territoire et une ville qui entend bien jouer son rôle de ville-centre, à la fois en regardant vers la plaine d'Alsace, mais aussi vers nos proches voisins mosellans.
Qui dit Saverne dit un autre nom qu'on associe régulièrement, c'est Rohan, les Rohans, le château qui est là. L'histoire de la ville, de son patrimoine est quand même intimement liée à ce nom, à cette famille.
Alors c'est une grande chance qu'on a à Saverne d'être une ville d'histoire. Alors avant les Rohans, il y a eu les Romains qui se sont installés là et cette ville, elle existe depuis plus de 2000 ans. Et c'est vrai que les princes-évêques de Strasbourg avaient choisi d'y placer le siège de leur administration. Et l'une des familles les plus célèbres des princes-évêques de Strasbourg a été la famille de Rohan. Nos cousins bretons qui sont venus jusqu'à Saverne, on sait bien qu'entre la Bretagne et l'Alsace, il n'y a que la France qui nous sépare.
Avec ce magnifique château qu'on a, qui est au bord de l'eau, qui est une des signatures de la ville, qui amène, en temps normal, pas mal de touristes.
Alors c'est vrai que Saverne est une ville touristique et on essaie de la développer dans ce sens-là. Je crois que c'est un levier qu'on peut encore largement actionner au fur et à mesure, avec notamment le port de Plaisance, avec la forêt, etc. Le château des Rohans, bien entendu, est le symbole de cette ville. Et souvent, les gens qui ne s'y attendent pas sont étonnés de découvrir dans cette petite ville coquette, tout d'un coup, un grand château qui est quand même la deuxième façade néoclassique, la plus grande de France, après Versailles.
Oui, c'est vrai que sa disposition dans la ville, vis-à-vis de l'eau également, est assez atypique. Il n'y a pas une perspective très majestueuse qui donne forcément dessus. On arrive et on se rend compte vraiment très progressivement de sa taille. C'est presque un peu des le secret de la découverte quoi, de ce patrimoine.
Ah, je crois que Saverne, c'est la bonne surprise. C'est d'ailleurs le slogan qui est utilisé par notre office de tourisme. Et c'est vrai qu'au détour d'une rue, tout d'un coup, ben, on arrive sur la place du Général de Gaulle et sur ce château, par la partie qui historiquement était l'arrière du château, puisque à l'époque, au moment où les Rouens y étaient notamment, et l'entrée se faisait par le parc, et il y avait un parc énorme de plusieurs centaines d'hectares. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, bien entendu.
On parle de tourisme, hein. Ce tourisme, comme partout, il a subi un coup d'arrêt depuis le printemps avec la première vague de l'épidémie. Ça continue, on parlait de Noël il y a quelques instants. Comment ça se passe, justement, parce qu'il y a le tourisme, les gens qui viennent, il y a le tourisme fluvial aussi, qui est important ici. Comment vous arrivez à vous en sortir? Comment les professionnels s'en sortent?
Ce n'est pas évident, bien entendu. À la fin du printemps et durant l'été, on a vu revenir, après le déconfinement, un certain nombre de touristes, mais bien sûr, pas du tout à l'échelle de ce qu'on a l'habitude d'accueillir sur notre territoire. Et puis là, bien sûr, pour cette période de Noël, ben, on s'attend à ce que ce soit très, très limité. Saverne est une ville aussi où on aime venir pour la période de Noël. Souvent, les touristes font un tour en Alsace sur un certain nombre de villes. On essaie d'offrir quelque chose de complémentaire au grand marché de Noël de Strasbourg, etc. Je crois que cette année, il faudra se contenter de faire rêver nos propres habitants, et ce sera déjà pas mal si on y arrive.
Justement, c'est vrai qu'on est on parlait de Noël, dans un des pays de Noël qui est un peu différent des grands sentiers qu'on a l'habitude de voir, Strasbourg ou d'autres grandes villes du Haut-Rhin. Là, on joue vraiment la carte où la nature, les lumières se disputent vraiment à la tradition pure de Noël, quoi.
C'est vrai qu'à Saverne, il n'y a pas de tradition de marché de Noël comme on peut l'avoir, bien entendu, à Strasbourg ou encore à Colmar, à Eisersberg ou autre. On sait que bah, ce qu'on n'a pas, autant le laisser à ceux qui le font bien et faire autre chose ou quelque chose de complémentaire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur l'ambiance, sur le côté heimlich, comme on peut dire en alsacien, sur le fait qu'on ait une ville d'histoire. Il faut que ça puisse se voir, que les bâtiments soient illuminés, qu'on y soit bien, qu'il y ait envie de s'y promener. Et finalement, le marché de Noël pour nous, d'abord, ce sont les commerçants du centre-ville qui le font. Et finalement, j'ai l'habitude de dire que Saverne est un grand marché de Noël à ciel ouvert avec tous ces commerces du centre-ville. Et donc, à nous de créer l'ambiance qui va avec.
Donc, autant que faire se peut, on essaiera de faire venir ces gens ici, hein, quand ils pourront se déplacer. S'ils peuvent venir, c'est vrai que tout ça reste encore incertain. Vous avez été réélu, hein, il y a quelques mois de cela maintenant, ici à cette mairie de Saverne. Contexte là aussi très, très particulier. Comment, lorsqu'on se fait réélire, on appréhende ce début de mandat? J'imagine que c'est en rien comparable avec le premier mandat que vous aviez eu à revêtir.
Un contexte évidemment très particulier. Élection au premier tour le 15 mars, et à partir du 17 mars, nous étions confinés. Ça veut dire effectivement de se remettre totalement en cause dans la manière de travailler. Être là dans l'urgence pour beaucoup de choses, mais être là aussi dans l'inventivité, parce qu'il nous a fallu beaucoup inventer. Je crois que tous mes collègues maires vous diraient la même chose. Une présence différemment, pas forcément une présence physique partout, mais une présence via les réseaux sociaux. À Saverne, on utilise beaucoup les réseaux sociaux. Et une question aussi pour faire travailler une nouvelle équipe. On a, bien sûr, on s'est tous réjouis le soir de la victoire électorale, qu'on n'a pas pu véritablement célébrer. Et puis, il y a eu cette cassure, on n'a pas pu directement enchaîné dans la dynamique qui avait été celle de la campagne. On a dû inventer d'autres manières aussi de travailler ensemble, par visioconférence, par d'autres manières. Faire confiance aussi, déléguer peut-être encore plus aux uns et aux autres un certain nombre de tâches, mais être présent. Je crois que c'était le mot d'ordre, et ça le reste aujourd'hui, c'est d'être présent pour la population, pour les commerçants, pour les chefs d'entreprise, pour tous ceux qui se tournent tout à fait naturellement vers le maire et vers la mairie quand on a des doutes, quand on a des questions, quand on veut partager. Je crois que le maire prend une place tout à fait particulière, et avec mon équipe, nous essayons de jouer ce rôle à plein.
S'adapter, c'est vrai que c'est un mot qui revient beaucoup, hein, depuis ce confinement, y compris et surtout, hein, dans les municipalités. L'innovation aussi. On le disait en micro, vous testez des choses, vous lancez des choses. À Saverne, c'est le service jeunesse qui fait quelque chose d'assez sympa là, pendant ce reconfinement. Expliquez-nous.
Alors, c'est vrai qu'on a un service jeunesse très inventif. Durant le premier confinement, ils avaient lancé les animations balcon, c'est-à-dire qu'ils allaient eux-mêmes au pied des immeubles pour que les gens restent chez eux sur leur balcon et vivre des animations en musique, des quiz, etc. Et puis cette fois-ci, ils ont lancé notamment un carnet de jeux qui est distribué dans les boîtes aux lettres des jeunes qui fréquentent le service jeunesse et qui est aussi à la fois une manière de les occuper pendant cette période, mais aussi une manière de préparer l'avenir et de lancer un certain nombre de thématiques qui, nous l'espérons, pourront être traitées de visu, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, le plus rapidement possible. Donc je crois que effectivement, on a un service qui n'a pas souhaité rester les bras croisés et qui fait preuve de beaucoup d'inventivité. Je suis vraiment très fier de ce qu'ils font.
Avec le numérique, vous l'avez dit tout à l'heure, qui permet de garder le lien. Parmi les autres points qui sont relatifs au numérique, j'ai vu que ici aussi, la course contre le cancer, la Savernoise, elle n'a pas pu se tenir dans les conditions actuelles, mais elle connaît un succès important sur Internet, si bien que vous la prolongez, j'ai vu ça les derniers jours, hein, jusqu'à fin novembre, on peut contribuer à ça.
Voilà, avec les organisateurs locaux et la ville, nous avions décidé de garder une manifestation qu'on a appelée la e-Savernoise. Chacun a pu s'inscrire, apporter aussi son financement à l'opération en s'inscrivant, et puis réaliser 5, 10, 15 ou plus de kilomètres en petits groupes, lorsque c'était encore possible en tout cas. Aujourd'hui, on peut le faire encore de manière individuelle, en étant restreint dans le périmètre et dans le temps. Mais on propose à chacun ensuite d'inscrire le nombre de kilomètres qu'il avait fait. On avait lancé un défi un peu ambitieux qui était de dire essayons d'atteindre les 40 000 kilomètres, de faire un tour du monde. On a fait la moitié. C'est déjà pas mal vu les circonstances. Et je voudrais féliciter toutes celles et ceux qui ont vraiment joué le jeu et dire que c'est encore effectivement possible, malgré les circonstances, de faire un geste. Il y a bien sûr aussi le geste financier et puis le côté symbolique de la marche ou de la course. Sur le site e-Savernoise, vous trouverez tout ce qu'il faut pour pouvoir le faire encore.
De la marche, on passe à un autre moyen de transport. C'est ce véhicule très novateur qu'on va voir dans les rues de la ville maintenant dans quelques mois. Là, vous frappez un grand coup avec, comment on l'appelle, Illico, c'est ça ?
Illico, c'est le nom qu'ont choisi les Savernois, puisqu'on avait lancé un concours pour donner le nom de cette navette régulière, gratuite, qui fonctionnera à partir du mois de juin et qui reliera un bout de la ville autour de la piscine de l'Océanide à l'hôpital qui se trouve totalement à l'autre bout de la ville, en passant par le centre-ville, en passant par la gare, et cadencé à la demi-heure de 7h du matin à 19h du lundi au samedi. Donc un moyen de renforcer l'attractivité du centre-ville, un moyen de désenclaver certains quartiers. Bien entendu, il s'agit d'une ligne expérimentale. On ne peut pas couvrir tous les quartiers. Ça fera pas peut-être quelques malheureux, mais je crois qu'il vaut mieux commencer par quelque chose. Et cette ligne a le mérite d'exister, puisque pour nous, elle existe déjà. Les navettes sont commandées auprès, d'ailleurs, et on en est très heureux, d'un constructeur régional, puisque c'est la navette e-cristal la navette cristal de l'Or Industrie qui a été choisi, et c'est une première. Jamais à Saverne nous n'avions eu un transport en commun. Aujourd'hui, c'est une réalité. On commence par une ligne, on verra bien ce que cela donne, et peut-être que plus tard on arrivera à s'ouvrir, notamment vers la grande agglomération de Saverne, vers les autres communes de la communauté de communes. Il s'agit pas du tout de rester enfermé sur soi, mais de montrer que les choses sont possibles, que ça marche, d'être novateur et pionnier, et je l'espère, entraîner derrière nous d'autres partenaires.
Le frein, il est financier, j'imagine que, voilà, vous l'avez dit, c'est un coût, on va voir ce que ça donne. Il est aussi politique, il y a d'autres maires qui sont intéressés, qui ne seraient pas intéressés dans le secteur, ou comment tout ça va pouvoir s'écrire en cas de succès, par exemple ?
Je crois qu'on a déjà indiqué que la porte était ouverte à la fois auprès des collègues maires qui sont proches de Saverne, voire au niveau de la communauté de communes. Bien entendu, les questions se posent différemment quand le périmètre s'élargit. Là, nous proposons un transport qui se fera sans le prélèvement transport qui pèse finalement sur les entreprises. Un transport qui sera gratuit. S'il devait prendre une autre ampleur, il y a sans doute un autre modèle économique à construire autour de ce transport-là. Essayons déjà de voir ce que cela donne au niveau local, mais ensuite, si on retrouve un autre modèle qui permet de rendre un service au-delà de la ville de Saverne, on sera très très heureux d'y contribuer.
Toujours sur ce mode propre, vous y tenez ça, l'écologie du moyen de transport ?
Alors c'est important pour nous aussi. Déjà, le transport en commun en soi est une manière de diminuer le nombre de voitures, mais on a fait le choix d'un transport électrique. On tenait à s'inscrire aussi dans la démarche de territoire à énergie positive dans laquelle s'est inscrit tout le bassin de Saverne. Et je crois qu'il nous fallait montrer l'exemple.
Une dernière question. Je vous parlais tout à l'heure de ce début de mandat qui ne s'annonçait pas comme le premier que vous aviez remporté il y a quelques années. Justement, cette contrainte liée à la situation sanitaire, est-ce qu'elle va vous amener à modifier les choses dans ce que vous aviez prévu de faire, de proposer à la population pour les prochaines années, ou même de fonctionner avec vos services, vos équipes? Vous parliez de la confiance, la délégation. Qu'est-ce qui risque de changer, ou est-ce que vous allez avoir d'autres ambitions vis-à-vis de ce que vous avez affiché?
Moi, je crois sincèrement qu'il faut qu'il y ait ce fameux jour d'après, parce que c'est quand même un gros choc que nous vivons tous, et que si on continue de vivre totalement de la même manière après, je crois qu'on aura manqué quelque chose. Au sein de la mairie, par exemple, nous avons mis en place un télétravail régulier, outre les circonstances, mais il sera désormais possible de télétravailler 2 jours par semaine pour les services qui le peuvent. Bien entendu, certains services ne le pourront pas, avoir un policier municipal qui télétravaille, ça paraît compliqué à expliquer. Voilà pour un exemple au niveau de la mairie. Il faut que nous modifions aussi, et que nous travaillions avec nos commerçants à modifier leur manière de travailler, leurs habitudes. On parle beaucoup du click and collect, des sites, etc. Je crois qu'il n'y a pas une fatalité d'Amazon. Créons aussi un véritable Amazon local pour que les gens puissent à la fois développer leur nouvelle manière de consommer, mais sans forcément aller plus loin que sur le terrain. Voilà un exemple sur lequel nous voulons travailler. Sur les mobilités douces, on a envie aussi d'aller plus avant. On a un grand plan vélo qui est en train de se développer. À titre personnel, j'avais promis pendant le confinement que je me mettrais au vélo. J'ai mon vélo électrique et je peux vous dire que j'ai pratiquement plus touché la voiture à Saverne depuis le déconfinement. Voilà des choses qui font que on a envie de vivre un peu différemment demain qu'hier.
En tout cas, beaucoup de choses sont lancées. Merci beaucoup Stéphane Leinberger de nous avoir accueillis.
Merci à vous.
À très bientôt, et merci à vous de nous avoir écoutés. Bonjour Monsieur le Maire, ce podcast natif sur radiodkl.com. Eh bien, on vous dit à très bientôt. Merci.